Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que ça fait 33 ans que je vis ça. C'est le combat spirituel. Alors, je voudrais quand même vous dire que ce matin, on fait pas un message de combat spirituel sans vivre le combat spirituel. C'est-à-dire que ce matin, moi, je me suis réveillé, j'étais tellement découragé, tellement malade, fatigué, écœuré, que j'avais même pas envie de venir. C'est vrai, j'étais dans une situation, j'ai passé une nuit épouvantable en combat. Voilà. Alors, je dis pas ça pour vous mettre dans le désarroi, hein. Mais ce qui m'a relevé, c'est que en me levant, le Seigneur m'a dit « Va dans ton bureau ». Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert ma Bible, psaume 20. « Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Ben, il m'a exaucé et il m'a donné de la force pour ce matin. Merci, Seigneur. Voilà. Ce que je propose, c'est de faire une série sur le combat spirituel. Et ce matin, je voudrais commencer par qui sera peut-être le moins intéressant, c'est peut-être la réalité du combat spirituel, mais au niveau biblique. Voilà. Ce que dit la Bible sur le combat spirituel. Alors, vous savez qu'au terme de sa longue et très riche vie, eh bien, l'apôtre Paul s'est écrié « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Alors, vous savez, déjà, lors de sa précédente lettre à Timothée, son enfant en Christ, eh bien, Paul n'avait pas manqué de lui rappeler les rudiments indispensables à son avancée chrétienne. Dans 1 Timothée 1,18, il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, eh bien, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et en gardant une bonne conscience. » Puis, un peu plus tard, 1 Timothée 6,12, il dit « Eh bien, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, garde le commandement, vis sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, cette exhortation de Paul à son enfant spirituel Timothée, c'est à la fois la recommandation et l'encouragement que Paul adresse ce matin à chacune et à chacun de nous ici présents. Alors, il nous prévient, il nous prépare et nous enseigne à combattre le seul vrai et bon combat, celui de la foi. Voilà, il ne dit pas qu'il y en a d'autres, le combat de la foi. Alors, qu'est-ce que le combat de la foi? Qu'est-ce que le combat spirituel? Mon désir profond ce matin et mon objectif prioritaire, c'est que aucune personne ici présente ne quitte ce culte, ne rentre chez soi en disant je ne sais pas du tout ce que c'est que le combat spirituel. Voilà. Hein. En réalité, vous savez, beaucoup de personnes sont de plein pied dans le combat spirituel sans même le savoir. Alors que d'autres, on ignore jusqu'à son existence et pourtant, personne, absolument personne, n'y échappe. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, voilà ce qu'il écrit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ça, c'est formidable. Hein, c'est ce qui fait votre joie. Ça, ça fait notre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour peu de temps attristés par diverses épreuves. Et beaucoup d'entre nous passent par diverses épreuves. Frères, sœurs, ce que dit Pierre doit parler à chacun de nous ce matin. Nous sommes par la grâce de Dieu sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes régénérés. Nous avons une espérance nouvelle. Nous sommes filles et fils de Dieu, enfants du royaume des cieux. Nous sommes sous la protection bénie et puissante de Dieu. Nous avons foi en lui. Nous croyons qu'il peut tout et qu'il nous protège. Et pourtant, il nous faut quand même passer par diverses épreuves. On pourrait croire que si on est chrétien, on n'a pas d'épreuves. Eh bien, on va passer aussi par des situations douloureuses et inattendues, par des découragements, comme l'a rappelé notre sœur Brigitte ce matin, par des luttes incompréhensibles. Alors, comment expliquer ce contraste ? Eh bien, Pierre rejoint l'apôtre Paul lorsqu'il poursuit en disant « Afin que l'épreuve ou la valeur de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Les deux apôtres mettent clairement en évidence l'importance de notre foi qui est largement au-dessus de l'or le plus précieux et le plus pur. Alors, cet or, qui pour arriver à une telle qualité, eh bien, il a dû subir la purification par le feu, comme nous, on va subir la purification par l'épreuve. L'or est une matière périssable, comme toutes les matières de ce monde. Mais notre foi subsiste, se fortifie et grandit, car elle est une merveilleuse assurance en l'amour de Dieu, en son salut, en sa parole. Alors, la foi, elle est faite aussi de craintes respectueuses à l'égard des jugements de Dieu, de son obéissance envers sa volonté. La foi, c'est ce qui nous relie et nous fait voir Dieu. Dans Jean 11, 40, il est marqué « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La foi, c'est croire avec sa tête, mais aussi avec son cœur. La foi, dit la Bible, est agissante par l'amour. La foi, et ça c'est important, la foi est victorieuse du monde. La victoire. Vous savez, Rennes hier a gagné contre Paris Saint-Germain. La foi est victorieuse du monde. Oui, je rappelle plus petit. 1 Jean 5, 4, « Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. » Qui est victorieux du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Ben, c'est ce qu'a rappelé Isabelle ce matin. Hein. Si vous croyez que Jésus vraiment est le Fils de Dieu, eh bien, vous êtes victorieux du monde. Vous le voyez très clairement, frères et sœurs, la foi est une puissance spirituelle considérable. Jésus l'a d'ailleurs révélé à ses disciples, qui étaient étonnés de voir un figuier sécher instantanément. On serait à leur place, on aurait fait pareil. Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec, demandèrent-ils. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », eh bien cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 21. Alors, frères et sœurs, vous l'avez bien compris, hein, il ne s'agit pas ici de faire sécher le prunier du voisin, ou de faire voler les montagnes pour les jeter dans la mer. Hein. C'est pas ça le but. Mais bien de demander avec assurance à Dieu qu'il réalise ses promesses. Toutes ses promesses. La foi fait partie avec l'espérance et l'amour des trois grandes vertus chrétiennes. même si selon 1 Corinthiens 13:13, c'est l'amour qui est la plus grande des trois. La foi est indispensable aux chrétiens. Si on lui enlève, eh bien il dépérit et s'éloigne de Dieu. Mais s'il persévère, il va grandir et bonifier sa relation avec le Seigneur. Alors, vous comprenez pourquoi une telle arme, une telle puissance, il faut la conserver. Et vous comprenez pourquoi Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout ». Maintenant, la question est de savoir contre qui combattons-nous afin de garder la foi. Et qui veut nous l'enlever et qui a intérêt à nous l'enlever? Alors, qui combat? Vous le savez, nous vivons dans un monde dirigé par nos sens. On admet volontiers ce qui se voit, se sent, se touche, s'entend, et nous sommes plus que méfiants, et nous avons des fois raison, à l'égard de ce qui est invisible. Pourtant, la Bible dit qu'un monde invisible existe, qu'il a un effet considérable sur nous. Colossiens 1, versets 15 et 16 dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. » Alors, un bref rappel sur le monde invisible. Dans l'évangile de Jean 4, 24, Jésus dit à la femme samaritaine « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Or, comme personne ne voit Dieu, c'est vrai, beaucoup de personnes doutent sur son existence. Il dit par là que Dieu fait partie du monde invisible. Et le monde invisible est un monde considérable et très méconnu. Vous le savez toutes et tous, la Bible débute par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mes frères et sœurs, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Eh bien, avant le commencement, avant toute création, il y avait déjà Dieu. Dieu est éternel. C'est une notion que nous avons du mal non seulement à admettre, mais aussi à comprendre. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu est infini en toutes choses. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, vous vous rendez compte? Il est infiniment bon, juste et parfait. Il est saint. Lui seul est Dieu et l'autorité suprême de l'univers. Il n'y a pas d'autre que lui. Ésaïe 45, 5, il dit « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a que néant, rien. » Le Dieu éternel était donc présent avant toute chose. Il était présent en trois personnes. Le Père qui est l'autorité, le Fils issu du Père qui a été engendré et non créé, psaume 2, verset 7, « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc il est sorti de Dieu, du Père. Le Saint-Esprit, qui est la troisième personne, qui est Dieu aussi, et qui seul sonde les profondeurs du Père et du Fils. Ces trois personnes sont unies en toutes choses. Elles sont Dieu. Voilà. Et le Dieu invisible. Dieu est avant tout un Dieu d'amour et de relations, un Dieu créateur. Certes, il aurait pu rester dans un entre-soi entre les trois personnes, ça suffisait. Mais Dieu en Jésus-Christ a voulu créer des anges qui vont former l'armée des cieux. Ils furent créés avant la terre et les cieux. Selon Job 38, versets 4 à 7, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, poussaient des cris de joie quand Dieu posa les fondements de la terre. Donc ils étaient là avant la création de la terre. Dieu les créa en très grand nombre, des myriades, c'est-à-dire un nombre considérable. Il les a créés supérieurs aux hommes, au service de Dieu. Ces anges ne peuvent ni se reproduire, ni d'ailleurs mourir. Et ils furent créés parfaits dès l'origine. Alors si Ésaïe 14, versets 12 à 15 et Ézéchiel 28, 15 font bien allusion à Satan, eh bien, on comprend comment le mal a pu toucher ce monde parfait. Ézéchiel 28 dit à cet ange, ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, « Je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu. » Mais tu n'étais qu'un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes et tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Mais ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, dit Dieu. Alors Lucifer, l'astre lumineux, l'ange de lumière, eh bien devient Satan, l'opposant à Dieu. Satan, selon Apocalypse 12, verset 4, ne se révolte pas seul contre Dieu. Il est suivi dans sa rébellion par un tiers des anges. Apocalypse 12, 4 dit « C'était un grand dragon, rouge feu, et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. » Alors, vous voyez que cette association de malfaiteurs n'arrivera bien sûr pas à ses fins, et cette tentative d'apostasie, cette tentative de régicide sera sévèrement punie par Dieu. Matthieu 24, 41, « Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors là, je ferai deux remarques. Si le diable et les anges déchus sont condamnés au feu éternel, ce sera à la fin des temps, pas maintenant. Leur condamnation est effective, elle est irréversible, on ne peut pas revenir dessus. Mais ils exercent toujours une activité spirituelle. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. La deuxième remarque, c'est Satan et les démons, nous dit Apocalypse 12, 7, ont combattu, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien, Satan et les démons n'ont plus leur place dans l'armée des cieux. Ils sont exilés sur la terre. Apocalypse 12, 12 nous donne leur état d'esprit. Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors Satan et les démons sont condamnés, perdus, leur temps est compté, et ils vont s'organiser pour faire le plus de mal à Dieu en s'en prenant à sa création. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, eh bien, Satan saisit l'occasion d'un premier combat spirituel aux conséquences désastreuses à la fois pour l'homme et pour l'humanité. L'ennemi de Dieu n'a pas d'armes. N'a pas d'armes terrestres, mais il a la ruse. Prenant l'apparence du serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs, il n'éveille ni la méfiance ni la crainte d'Adam et Ève. Vous savez que Satan sait parfaitement se déguiser pour surprendre. En outre, il se montre très persuasif, car il connaît parfaitement les faiblesses humaines. Il connaît chacune de nos faiblesses. Mais aussi comment manipuler la parole de Dieu pour nous amener à pécher. Vous savez, il me fait penser aux bonimenteurs, vous savez, ces marchands à l'étalage qui nous vendent la qualité de certaines marchandises, nous font croire que c'est indispensable à notre vie. Moi, j'y crois toujours, je les achète, je les mets dans mon buffet et puis on s'en sert jamais, avec quoi dire. Satan est extrêmement harcelant, car il ne lâche jamais l'affaire. Si vous pensez que Satan va s'épuiser, vous vous trompez. Il revient par vagues régulières pour ne pas laisser l'être humain respirer. Et puis, Satan, il est aussi sans pitié. Il sait pertinemment qu'il condamne l'humanité, qu'il va faire souffrir l'homme, mais il n'en a cure. On pourrait dire qu'il s'en fiche. Il s'en moque comme de sa première chemise. Il n'a aucun état d'âme. Il faut attendre de lui aucune pitié. aucun sentiment de compassion. Adam a été spirituellement vaincu. Satan l'a poussé à la désobéissance, et là, il tient une partie de sa revanche. Alors, cette défaite spirituelle a eu de graves conséquences pour l'humanité. Elle a créé une séparation entre l'homme et son créateur. Mais elle a aussi laissé entrer le péché en l'homme, puis dans le monde. Romains 5, 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché est entrée la mort. Cette mort spirituelle qui a frappé l'homme de plein fouet l'a rendu totalement inapte au combat spirituel, tant il est dominé par le péché. L'apôtre Paul décrit merveilleusement ce nouvel état. Romains 7, 14, il dit « Je suis charnel, vendu au péché, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, je voudrais bien, mais j'y arrive pas. » Satan et les anges déchus, ils sont peut-être aussi déçus, je ne sais pas, mais contrôlent à présent totalement ce monde pollué par l'iniquité. Ils manipulent l'homme et le rendent impuissant à combattre. L'homme naturel ne peut plus combattre, puisqu'il ne voit plus clair spirituellement. Ils l'ont privé de sa foi en Dieu. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont recentré sur lui-même. Et au lieu de livrer un combat spirituel contre Satan, eh bien, ils le poussent à combattre pour la sauvegarde de ses intérêts, hein, pour ce qui est matériel. Ils l'incitent de même, par orgueil, à combattre son prochain, à entrer en guerre, en conflit. Au lieu de combattre celui qui l'a asservi et l'opprime, eh bien, il lutte contre son semblable. Et puis, l'homme égaré n'a pas perdu pour autant la notion de Dieu, ni celle de la vie éternelle, et pour cause. Souvenez-vous ce qui est marqué dans la Bible, hein, Ecclésiaste 3.11, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Donc, il a toujours cette pensée de Dieu. Ben, qu'à cela ne tienne. Et afin de ne pas le décevoir, eh ben Satan et sa cohorte de démons vont lui proposer une foule de croyances et de religions, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Ils le font à la fois pour le satisfaire, mais aussi, bien sûr, pour le perdre. Car pour être sauvé, il faut avoir reçu, vous le savez tous, le pardon du péché par le sang divin. Ce qu'aucun livre autre que la Bible n'enseigne. En outre, les forces maléfiques vont submerger l'homme d'illusions et de pensées fausses, qui vont l'enfoncer de plus en plus dans le mal et puis aussi dans la dépendance démoniaque. Et ça l'empêche de voir Dieu. On va citer deux choses, le spiritisme, mais aussi la voyance, qui donne à l'homme l'illusion qu'il peut connaître l'avenir alors que Dieu seul dirige le futur. Ésaïe 44, verset 7, dit « Qui a comme moi fait des prédictions ? Qu'ils le déclarent et me le prouvent ? Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver ?» Ces pratiques nous mettent en contact avec des démons, tout ce qui est voyance et spiritisme, et nous plongent dans le mensonge spirituel. Et puis, la deuxième chose, c'est l'aveuglement spirituel. Satan veut nous faire croire que Dieu, qui est esprit, ben, il n'existe pas, qu'il ne nous a pas créés, mais que nous sommes le fruit d'une évolution sordide, que Dieu est très exigeant, qu'il est injuste, qu'il attend de nous perfection et bonnes œuvres pour être sauvés, que le mal s'appelle bien et que le bien s'appelle mal. Voilà ce qu'il veut nous faire croire. Que venir vers Dieu va nous coûter très cher, qu'il va falloir renoncer à tout. Ces mensonges aveugles et n'ont qu'un seul but, entraîner tous les hommes dans le feu éternel à sa suite. Alors pourquoi cela reste possible? Eh bien depuis la désobéissance d'Adam, l'homme est sous la condamnation de Dieu. Il est condamné à mort, il est dans la même prison que Satan et les démons. Et il est dans le monde, ils sont codétenus dans ce monde. Les uns définitivement condamnés, les autres avec possibilité, c'est-à-dire nous, avec possibilité d'obtenir une grâce divine. Et c'est cette proximité d'enfermement qui permet aux démons et à Satan de dominer l'homme. Alors pourquoi ? Selon Ephésiens 6, les démons sont des êtres puissants, puissant, bien plus que l'homme. Pourtant, ils restent soumis à Dieu. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, mais ils sont beaucoup plus puissants que nous. Ce sont des esprits méchants qui n'ont d'autre projet que de détruire, faire souffrir ou maltraiter l'œuvre de Dieu. Ce sont aussi des autorités qui règnent sur nos faiblesses et qui ont pris pouvoir sur l'homme pour le dominer, l'asservir et l'amener à la mort éternelle. Ce sont enfin des dominations qui sont des puissances spirituelles ésotériques qui ont investi tous les cercles spirites et organisations occultes sur cette terre. Et Dieu dans tout cela? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est simple, il reste maître et autorité de toutes choses, car toutes choses lui sont soumises, même les démons. Hein. Dieu regarde la terre du haut des cieux, et qu'est-ce qu'il voit, Dieu? Il cherche pour voir s'il y a quelqu'un parmi les hommes qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu, mais tous, il voit tous les hommes qui sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, il n'invoque point Dieu. Psaume 53, versets 2 à 4. L'homme a perdu le combat spirituel contre Satan, il est prisonnier. Dieu veut venir le libérer, le délivrer en Jésus-Christ. Paul l'exprime clairement à Timothée, il dit, 1 Timothée 1,15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Voilà, il est venu pour nous sauver. Sachant cela, Satan et les démons vont livrer une véritable bataille spirituelle à Jésus pour l'empêcher de réaliser sa mission, mourir sur la croix. Voilà, ils vont tout faire pour l'empêcher. Dans le désert, Satan en personne, Matthieu 4, va essayer dans un combat spirituel en trois temps de le faire pécher pour le perdre. Mais en vain. Puis dans le jardin de Gethsémané, quelques jours avant sa mort, Jésus subit de la part de Satan un combat spirituel terrible qui visait à le faire renoncer à la croix. Il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Matthieu 26, Jésus commença à éprouver de la tristesse. Vous vous rendez compte, c'est le Fils de Dieu. Il est venu rien que pour ça. La tristesse et des angoisses. Il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis il pria le Père, « Mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Matthieu 16, dès que Jésus commença à informer ses disciples qu'il devait mourir, eh bien Pierre le prit à part et se mit à le reprendre et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Jésus, en pleine épreuve spirituelle, discerne que derrière la tendresse de Pierre, la gentillesse de Pierre, eh bien, il y a la manipulation maléfique du diable. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Aucun des combats spirituels imposés par Satan à Jésus n'a pu détourner le Christ de sa mission salvatrice. En mourant à Golgotha, sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu la mort spirituelle. Il a ouvert une porte de liberté, de délivrance à l'homme prisonnier de Satan. À présent, eh bien, l'homme a le choix soit de rester prisonnier de Satan, soit de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé par la foi. Jean 3, 16, que chacun peut reprendre avec moi. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour toutes celles et ceux qui, par la foi en Christ, ont saisi la victoire de Jésus, une nouvelle vie de réconciliation et de bénédiction avec Dieu s'ouvre devant eux, mais aussi des épisodes de combats spirituels très intenses qu'ils devront gérer. Les forces du mal n'ont alors plus qu'une seule obsession, elles qui sont définitivement condamnées, c'est faire le plus de dommages, le plus de carnage possible, en emmenant dans le feu éternel le plus d'êtres humains possible. Et ils sont animés par un esprit de vengeance et de haine terrible à l'encontre des enfants de Dieu, surtout ceux qui évangélisent. Le diable et les forces démoniaques vont donc livrer aux chrétiens un combat spirituel sans merci pour leur faire perdre la foi. Et comment ils vont faire pour faire perdre la foi? Eh bien, Satan attribue souvent à Dieu des choses qui lui incombent à lui, Satan. Il utilise, par exemple, les silences de Dieu comme un manque d'amour. Dieu ne me répond pas, mais Dieu ne m'aime pas. Les épreuves qui font grandir comme une punition divine. Quand on passe par des épreuves, eh ben, il dit non, Dieu te punit. Le mal qu'il nous fait, c'est harcèlement comme venant de Dieu. Et aussi pour empêcher d'évangéliser. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être le témoignage d'un évangéliste qui s'appelle Samuel Peter Schmidt. Le pasteur évangéliste, c'est un pasteur évangéliste de Porte Ouverte à Mulhouse. Il en a porté sur Internet, et si vous pouvez l'écouter, hein, un témoignage poignant à ce sujet. Alors qu'il entreprenait de créer une méga-église pour évangéliser en France et dans le monde maghrébin via Internet, eh bien son fils est tombé gravement et soudainement malade. Il était atteint d'une maladie proche de la schizophrénie. Son fils était à la limite de la folie. Alors, Samuel Peter Schmidt a dû stopper son projet d'évangélisation pour s'occuper de son fils, qui menaçait la famille entière. Sa femme l'a quitté. Tout son projet d'évangélisation est tombé à l'eau. Un jour, une infirmière, qui n'était même pas chrétienne, demanda à Samuel Peter Schmidt, « Monsieur Peter Schmidt, croyez-vous aux forces occultes ?» Cela éclaira l'évangéliste qui constitua une équipe de prière pour la délivrance de son fils, qui fut libéré. Il retrouva son épouse et son projet d'évangélisation connu et connaît encore une très grande réussite. Il cherche aussi à casser les ministères. Tous ceux qui vivent dans le ministère sont en grand danger. Alors, je ne vais pas développer, ce serait trop long, mais il casse les ministères par les abus spirituels, la culpabilité, le découragement, les tentations et en particulier l'infidélité conjugale, mais aussi par les maladies. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5,8. Ce combat est entièrement spirituel, c'est-à-dire qu'il se fait en esprit. Hein, le diable parle, mais en esprit. Les forces du mal vont chercher à exciter, manipuler les êtres humains, nous-mêmes, en les dressant les uns contre les autres, mais aussi les chrétiens pour créer des divisions dans les églises, des querelles, des luttes et des combats dans les églises. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous met toutes et tous en garde. Écoutez bien. Il dit, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ça ne sert à rien. Pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Voilà, ça ne sert à rien dans l'Église à se confronter. L'apôtre Jean, lui, au contraire, nous invite à nous aimer les uns les autres. 1 Jean 2,10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Voilà. Frères et sœurs, nous n'avons jamais raison d'avoir des combats fratricides ou des luttes contre celles et ceux qui pratiquent d'autres croyances, pas plus que contre les athées. Ça ne sert à rien. Toutes et tous sont victimes de Satan ou du péché. Notre combat, le bon combat de la foi, doit être mené dans la sagesse et le discernement, pas contre l'être humain, mais contre les forces spirituelles qui se cachent derrière. Ce combat ne peut se faire qu'avec l'aide de Dieu et dans la prière à partir de la victoire de Jésus-Christ. Et c'est précisément ce que nous verrons ensemble le dimanche 26 mai dans un mois, pour celles et ceux qui le peuvent, qui le veulent. Et je vous propose maintenant de prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as pas dit que la vie serait facile. Tu nous as pas dit, Seigneur, que ce serait un long fleuve tranquille. Mais tu nous as dit aussi, Seigneur, que comme toi, tu avais vécu le combat spirituel, nous devons aussi nous vivre et passer par des épreuves. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as déjà fait le chemin. Toi, tu es mort à la croix, tu es mort, Seigneur, pour nous sauver. Et tu as fait un acte d'amour, Seigneur. Un acte puissant qui nous a montré le chemin. Seigneur, merci parce que par ta force toute puissante, nous sommes vainqueurs, Seigneur, de l'ennemi. Et Seigneur, je voudrais ce matin que vraiment chacun puisse repartir en disant « Oui, c'est vrai, il y a un combat spirituel qui existe, mais nous l'avons déjà gagné en Jésus-Christ. » Merci Seigneur pour ta force, ta puissance. Merci pour ton amour tout-puissant. Gloire à toi, mon Dieu. Amen.